Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Il n'a pas résisté au scandale des violences sexuelles dans sa fédération. Didier Gayaguet n'est plus le président de la Fédération française des sports de glace. Il a démissionné hier de ce poste qu'il occupait depuis 21 ans. Cédric Guillou, c'était ce que demandait la ministre des Sports.
Pour Roxana Maracineanu, la démission de Didier Gayaguet n'est qu'une première étape pour continuer d'assainir la Fédération française des sports de glace et le monde sportif en général.
Tout le monde, je crois, est choqué, mais il n'y a pas aujourd'hui d'autre solution que de déconstruire pour mieux reconstruire, pour que le sport en sorte grandisse.
Une avancée prometteuse pour David Smetanin, nageur paralympique grenoblois, signataire comme 53 autres athlètes olympiques français d'une tribune contre les violences sexuelles dans le sport. Il souhaite que cette démission soit un véritable électrochoc pour toutes les fédérations.
C'est pas la seule fédération qui a connu des problèmes. Et comme par hasard, depuis l'annonce de cette tribune et surtout les aveux de Sarah Bigbol, on a appris que dans le football, il y a eu des gros soucis, dans le judo aussi. Et c'est même quelque part troublant parce qu'on se dit finalement, ça n'est que le commencement. Certains ont parlé du plus grand chaos de l'histoire du sport français, de l'affaire la plus importante. Je crois que le sujet lui-même est extrêmement important. Ça commence par là.
Et Roxana Maracineanu de préciser que de nombreux témoignages, de nombreux signalements relatifs des violences sexuelles dans d'autres disciplines arrivent au quotidien au ministère des Sports.
En Suisse, la lutte contre l'homophobie passe par les urnes. Une votation a lieu aujourd'hui pour décider de punir les discriminations et insultes fondées sur l'orientation sexuelle, car ce n'est pas le cas actuellement. À Genève, Jérémy Lange.
Mettre sur le même plan des propos racistes ou des paroles haineuses à l'égard des homosexuels, c'est ce que souhaite la quasi-totalité des partis de Suisse favorables au texte. Didier Bonny est le coprésident de la Fédération romande des associations LGBT.
Ça va pas radicalement changer les choses. Je veux dire, il y aura toujours une part d'homophobie, mais par contre, on pourra plus dire tout et n'importe quoi d'une manière publique. Par exemple, tous ces PD, il faut les brûler, toutes ces gouines, il faut les remettre dans le droit chemin. Toutes ces choses qui sont actuellement autorisées, on peut les dire en public. L'important d'une loi, c'est de mettre des limites à celles et ceux qui n'arrivent pas à s'en mettre eux-mêmes.
Des limites qui ont par ailleurs été franchies au cours de la campagne. La tribune de Genève a rapporté le cas d'une militante qui s'est fait insulter dans le tram en toute impunité, son agresseur lui lançant qu'il était dans son droit tant que la loi n'était pas votée. Même si aujourd'hui en Suisse, comme ailleurs, les propos homophobes sont surtout répandus sur les réseaux sociaux, des propos qui pourront également être punissables par la loi.
C'est aussi sur les blogs. Moi, je tiens aussi un blog. Les commentaires sont plus que limite. Moi, je les publie très souvent pour que chacune et chacun puisse se rendre compte à quel point il y a encore du travail pour lutter contre la bêtise humaine.
L'Union démocratique du centre est l'un des seuls partis à s'opposer à la mesure, liberticide, selon le puissant parti populiste de droite. Mais sauf surprise, le texte devrait être largement accepté dans les urnes. La Suisse remonterait alors un peu au classement des droits LGBT en Europe. Elle n'est actuellement que 28e, derrière la Slovaquie, le Kosovo et l'Albanie.
Jérémy Lange. En Afghanistan, 2 soldats américains ont été tués, 6 autres blessés au cours d'une attaque au fusil mitrailleur dans la province de Nangarhar, dans l'est du pays. C'est un soldat afghan qui a ouvert le feu, selon un communiqué de l'armée américaine. Au Brésil, le parti des travailleurs de l'ancien président Lula fête son 40e anniversaire ce week-end à Rio de Janeiro. Le plus grand parti du pays tente de se trouver un avenir alors que l'extrême droite a pris le pouvoir depuis un an. La gauche cherche à se rassembler mais aussi à reconquérir des espaces qu'elle a perdus comme la périphérie ou encore les églises évangéliques. Des espaces qui font aujourd'hui basculer une élection, Anne Vigna.
Pour les 40 ans du plus grand parti de gauche d'Amérique latine, les symboles ne bougent guère. Le débat, les musiques et bien sûr l'international pourraient accueillir les deux plus grands leaders de la gauche réunis pour cet anniversaire. Pepe Mujica, ex-président d'Uruguay, et Lula, ancien président du Brésil, ont mené un débat sur l'engagement politique dans une région qui fait face pour la première fois à l'extrême droite. Et c'est à la jeunesse que Pepe Mujica s'est d'abord adressé.
La vie va et la question est, tu vas perdre ta vie à payer des factures et des factures et des factures. Comme ça, tu ne seras pas heureux. Tu vas être esclave des factures. Et on ne va pas avoir un monde meilleur si nous-mêmes ne sommes pas meilleurs.
Lula, lui, s'est dit préoccupé par une jeunesse qui ne trouve plus d'emploi et doit travailler via des applications comme Uber.
En travaillant avec les applications, d'abord, tu ne sais pas ce qu'est un patron. Ensuite, tu n'as pas de vacances et si tu te blesses, tu n'as pas d'assistance médicale. En résumé, c'est traiter l'homme de la pire manière possible au nom d'un seul mot, la flexibilité.
Les deux leaders font toujours salle comble, mais il faut désormais que la gauche fasse émerger d'autres figures pour s'opposer à une extrême droite qui pourrait gouverner plus longtemps que prévu.
En Amazonie brésilienne, la déforestation a plus que doublé en janvier par rapport au même mois de l'an dernier, avec plus de 280 km² déboisés, un record selon les données officielles. Les forêts en danger aussi en Afrique. Il s'agit cette fois de conséquences climatiques, des sécheresses et des phénomènes graves comme El Niño. Pour la première fois, des chercheurs français de l'IRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture et l'Environnement, ont estimé les pertes subies dans la forêt africaine. Et elles sont considérables, Célia Kiré.
Imaginez, c'est comme si l'Afrique avait perdu, en stockage de carbone, l'équivalent de 10 forêts des Landes. Les chercheurs, comme Jean-Pierre Vigneron de l'INRAE, ont observé l'humidité du sol, l'épaisseur de la végétation grâce à des images satellites et ils ont pu évaluer les dégâts causés par le courant chaud El Niño et la sécheresse de 2015, notamment dans le bassin du Congo.
On a regardé donc un an après l'événement et on a vu que la végétation n'avait pas récupéré. L'impact d'El Niño était beaucoup plus important du fait que la sécheresse était déjà là, que les stocks de des sols étaient déjà appauvris. Donc à chaque événement extrême, on perd des stocks qu'on ne récupère pas.
Or, cette forêt tropicale africaine ne peut plus jouer le même rôle pour limiter le réchauffement. C'est un cercle vicieux pour Philippe Sier du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
Ça amplifie le réchauffement parce que si les forêts augmentent en carbone, elles continuent d'absorber du carbone qui est émis par les activités humaines. Mais si elles diminuent, ça veut dire qu'elles rajoutent du CO2 dans l'atmosphère. Et donc à ce moment-là, ça fait encore plus d'émissions. C'est vrai que les forêts tropicales, leur aide dans la lutte contre le changement climatique n'est pas du tout garantie.
Attention donc au programme de plantation d'arbres destiné à compenser les émissions de carbone des entreprises polluantes. Il n'est pas certain, selon ce climatologue, que ces arbres permettent réellement de lutter contre le réchauffement.
En France, 35 départements de la moitié nord du pays sont placés en alerte orange en raison de la tempête Ciara. Des rafales annoncées ce soir jusqu'à 140 km/h sur les côtes de la Manche. Des départements, donc parmi eux l'Aisne, le Calvados, le Finistère, la Loire-Atlantique, sont placés en vigilance orange avec des rafales entre 100 et 120 km/h en moyenne.